Bonjour Nicolas Patin, je suis maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne en histoire contemporaine depuis 3 ans. Je viens de sortir un livre qui s'appelle Kruger, un bourreau ordinaire, aux éditions Fayard. Moi j'avais une toute première question. Qu'est-ce qui t'a incité à travailler sur le national-socialisme?
Alors c'est une bonne question et en même temps une question difficile parce que le grand jeu dans ces cas-là, c'est de dire qu'on avait tout prévu, qu'on était passionné depuis le début. Moi évidemment, on va dire comme n'importe quel écolier, lycéen, collégien français, ben, j'ai été marqué par des documentaires comme Nuit et brouillard que j'ai vu en quatrième ou de Nuremberg à Nuremberg. Mais le vrai questionnement, il est venu un peu après, au moment de choisir mon sujet de master, donc 3 ans après le bac. Mon grand-oncle venait de mourir et j'étais assez proche de lui et il m'a légué sa bibliothèque. Et dedans, il y avait une biographie de Joseph Goebbels, le ministre de la propagande du Troisième Reich. Et à partir de là, je me suis intéressé à ce personnage avant tout en me disant comment on peut être en même temps intellectuel. Goebbels, il avait fait une thèse de doctorat en littérature, et nazi, et national-socialiste, et fanatique. Comment on peut en même temps être très intelligent, intellectuel, et haïr les juifs, autant que Goebbels le faisait. Et à partir de là, j'avoue, il y a eu un enchaînement, un peu comme souvent. J'avais envie de faire une thèse, j'avais envie de partir à Berlin pour vivre à Berlin, pour améliorer mon allemand, etc., etc. Et c'est vrai que la période du Troisième Reich, elle est assez fascinante parce que, au mauvais sens du terme, parce qu'elle pose des questions morales de comment le mal est possible, comment une société aussi moderne que l'Allemagne de l'époque a pu produire un génocide comme celui-là. Et donc c'est vrai que ben, toutes ces questions-là, on a beau trouver des réponses intellectuelles quand même en travaillant depuis un certain nombre d'années, il y a toujours un moment où il y a une forme de sidération qui revient et des questionnements nouveaux qui surgissent.
Et du coup, toi, pour cet ouvrage, comment ça s'est déroulé la recherche?
Alors, je pense que c'est assez intéressant d'en parler, y compris pour nos étudiants ici, historiens ou autres, hein, mais particulièrement pour les historiens. Je pense que la plupart des gens ont l'impression qu'on va dans un centre d'archives, on s'assoit et on fait venir des cartons d'archives, que par ailleurs on compte en mètres linéaires, donc on lit des mètres de papier, quoi. En fait, là, c'est vraiment l'exact inverse. Kruger, je l'ai rencontré aux archives à Koblenz en Allemagne, avec un petit morceau de son journal intime de Première Guerre mondiale, qui portait le numéro 5. Il n'y avait que ça. S'il porte le numéro 5, c'est qu'il y en a d'autres. J'ai commencé à fouiner. Je suis allé aux archives militaires de Freiburg. J'ai trouvé le numéro 1, 2 et 6. Ensuite, je me suis rendu compte à Munich, en allant à l'Institut d'histoire du temps présent, qu'ils avaient un journal intime, toujours de Kruger, de 1938-1939, qui était une copie de Stanford en Californie. Donc je suis allé en Californie, j'ai trouvé non seulement le volume de 38-39, mais le volume 3 de la Première Guerre mondiale, qui était pas marqué. Hein. Tout ça, c'est pas dans les index, c'est pas, il n'y a pas un site internet qui répertorie. Après, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille à Washington, au centre d'histoire du génocide, enfin le muséum, le mémorial du muséum de Washington. Là, j'ai trouvé un morceau de journal de 44. Pourquoi est-ce qu'il est là? Parce qu'il y a un traducteur au procès de Nuremberg en 45-46 qui l'a volé et qui l'a donné à ses enfants, qui l'ont donné à Washington en 2005. Finalement, ce qui m'a semblé logique, c'est d'aller jusqu'en Pologne, puisque j'avais fini l'Allemagne. Je suis allé aussi à Jérusalem, en Israël, à Yad Vashem, le grand centre d'études sur le génocide. Et puis finalement, bah, j'ai fini par apprendre un peu de polonais et puis aller à Cracovie, à Varsovie, à Lublin, enfin vraiment dans des petits centres d'archives où là, les temps de communication sont beaucoup plus longs pour essayer de trouver, ne serait-ce que des fois, je dépouillais, je sais pas, un mois de journaux en polonais pour trouver 3 articles, mais pour vraiment aller au bout de cette recherche. Et je pense qu'aujourd'hui, à part la Russie, j'espère, enfin je croise les doigts pour avoir rien oublié, parce que vraiment ça m'a demandé un an. Et je conclurai juste en disant que cette recherche, elle aurait jamais été possible sans argent. Et ça, on n'y pense pas assez. La recherche, on part du principe que ça se fait quasiment gratuitement. En réalité, sans une bourse de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, cette recherche, elle aurait été totalement impossible. Donc c'est vrai qu'il y a un petit message derrière de dire, une recherche comme ça, pour une biographie qui a jamais été écrite, c'est la première biographie sur Kruger, qui est quand même responsable de 2 millions de morts, ben, il fallait de l'argent derrière, et donc sans ça, c'était impossible de mener cette recherche.
Et du coup, toi, quand tu as écrit ce livre, tu l'as écrit pour quel type de public, en fait? Tu l'avais en tête, ça, à ce
Alors,
moment-là?
c'est toujours la question. Quand on est universitaire, soit on nous accuse de faire des ouvrages trop scientifiques et illisibles, et dès qu'on fait du grand public, on nous répond que c'est pas assez sérieux. Il se trouve que j'avais déjà publié ma thèse chez Fayard, et les contraintes chez un grand éditeur non scientifique, enfin, à la frange du grand public et du scientifique comme Fayard, les contraintes, elles sont simples, hein. Déjà, on n'a pas énormément de place. Pour le dire autrement, une thèse, on va dire, une thèse normale, c'est 1 500 000 signes. On compte en signes. Espace compris, etc. Chez Fayard, un livre, c'est 600 000 signes. Donc c'est un tiers, un gros tiers. Donc ça demande de réduire énormément. Deuxième chose, on a de la place pour les notes de bas de page, ce qui est un peu l'obsession des historiens, mais ok, mais combien de place? Chez un éditeur universitaire, on a souvent beaucoup de place, on peut en mettre autant qu'on veut. Chez Fayard, ou chez Belin, ou chez Le Seuil, c'est pas la même chose. Donc là, c'est vrai que moi, en l'écrivant, mon but, il était très clair, hein, et assez difficile, et donc j'espère peut-être réussi, tenir un équilibre vraiment fort entre être le plus rigoureux possible en termes de recherche, livrer quelque chose qui est vraiment de l'ordre des standards de la recherche française, internationale, enfin, qu'il n'y ait pas de doute là-dessus, avec des sources en anglais, en allemand, en polonais, etc. Et en même temps que ce soit lisible par quelqu'un, on va dire, qui est de l'ordre du public passionné, qui connaît un peu déjà des choses en histoire, mais qui n'est pas censé connaître sur le bout des doigts les processus de destruction. Et là c'est vraiment les remerciements à mon éditrice, Sophie Hogg, qui m'a laissé énormément de liberté, y compris pour que narrativement, il se passe quelque chose avec le lecteur. Et notamment que ce ne soit pas une biographie qui soit écrite de manière chronologique, le début, le milieu, la fin. Donc on a essayé de travailler là-dessus pour que ce soit vraiment lisible, dans un récit qui soit un peu resserré, 200 pages, et 100 pages de notes, hein, mais 200 pages de récit, pour que le lecteur finalement ait une vraie expérience enfin, de récit et de narration. Donc bon, est-ce que ça a fonctionné? J'en sais rien, mais c'était l'idée. Tenir un équilibre entre la rigueur scientifique et la pédagogie d'une écriture un peu déliée, quoi.
Et question surprise, tu réponds par oui ou par non. Est-ce que ton livre aujourd'hui, quand tu étais petit et quand tu t'as commencé à t'intéresser au national-socialisme, si tu l'avais lu, est-ce que tu penses que ce livre-là, il aurait apporté des réponses aux questions que tu te posais?
Ah, c'est vache comme question. Un livre qui m'a vraiment. Il y a un ou deux livres qui ont vraiment beaucoup changé ce que je pensais. C'est un grand classique qui s'appelle Christopher Browning, des hommes ordinaires,
Ouais,
d'où le titre du livre,
d'accord.
Krueger, un bourreau ordinaire. Parce que vraiment, c'est un livre qui a fait énormément de bruit et qui était très analytique et très intéressant et bien écrit dans les années 90. Et un deuxième livre de Charlotte Lacoste qui s'appelle Séduction du bourreau, négation des victimes, qui est plutôt un livre de littérature. Et ces deux livres-là, ils ont vraiment aussi changé la morphologie de ce projet-là. Si je l'avais lu, mon propre livre, ouais, déjà, c'est un peu mégalo de dire ça.
Non, mais en imaginant que ça va ton propre
Non, mais je
livre.
rigole, mais honnêtement, je pense que le livre, il est un tiers, il parle de la Première Guerre mondiale, de l'expérience de la Première Guerre mondiale de Krueger. Et c'est ça, moi j'avoue que c'est ça qui m'intéresse, c'est comment la Première Guerre mondiale a transformé cette personne, son parcours, mais aussi toute l'Europe. Et donc enfin, je croise les doigts pour que peut-être la personne que j'étais il y a 15 ans, en lisant ça, aurait compris que un des questionnements fondamentaux pour comprendre le nazisme, c'est la Première Guerre mondiale. Donc peut-être, après je sais pas, il faut espérer.
Ok. Bon, mais merci Nicolas. Et puis voilà, vous pouvez tous retrouver le livre de Nicolas Patin, Kruger, un bourreau ordinaire aux éditions Fayard. Merci.
Merci.